Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour ou bien rebonjour, pas de plage, pas de transat, pas de sieste, pas de bulle. Certains lézardes, lui, va attaquer un mois d'août chargé. Pierre Palmade monte sur scène la semaine prochaine à Paris, nouvelle pièce de théâtre, Assume bordel, c'est le titre. Une sorte de version gay de Il s'aime, avant une tournée partout en France, best-of de ses précédents One Man. Pierre Palmade sur la brèche, il passe par Culture Média d'ici un quart d'heure. Du côté des indispensables jeux vidéo, Clément Le Saffre a essayé pour vous Ghost of Tsushima sur PS4. Voilà, je viens de parler chinois. Première page, celle du nouveau roman de la rentrée que vous découvrez en avant-première ce matin, la première page de Térébenthine, signée Carole Fiff chez Gallimard. Belle matinée à vous à l'écoute de Culture Média d'été. Comme chaque matin, la deuxième heure débute avec le journal de la culture. Bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui.
Au sommaire, un chanteur brésilien, un soupçon de chaos, des siestes collectives, 4 films français sur Netflix et mon groupe Chouchou. Mais je vous en dis pas plus.
Et on commence avec une icône brésilienne qui tire à boulet rouge sur le président Bolsonaro.
Et cette icône, c'est Caetano Veloso, un chanteur à qui l'on doit notamment cette magnifique version de la chanson Cucurucucu Paloma.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar.
Voilà un titre tout en douceur, mais alors c'est pas vraiment le mot qui convient pour les propos tenus par Caetano Veloso hier dans le journal anglais The Guardian. Il déclare en effet à propos de Bolsonaro que c'est un incompétent, totalement confus. Il parle à son sujet de folie et de cauchemar absolu. Il décrit son administration comme une catastrophe et un danger pour la démocratie. Caetano Veloso dénonce aussi la gestion du Covid-19 au Brésil, mais aussi les prises de position de Bolsonaro sur les questions environnementales ou culturelles. Alors je vous parlais hier, Pascal, des artistes américains comme Neil Young qui sont entrés en guerre contre Donald Trump. Il se pourrait bien qu'un vent de révolte soit en train de se lever aussi chez les artistes brésiliens.
Mmh, et je constate que vous roulez bien les airs.
Coucou, coucou.
Oh là, je vais pas le faire. On a des nouvelles du chanteur Marilyn Manson.
Oui, Marilyn Manson, vous savez, c'est ce chanteur un peu néo-gothique, au teint blafard, aux yeux translucides, un chanteur de musique métal, mais qui s'est transformé en figure de la pop culture. Et hier, Marilyn Manson, WM, on va l'appeler, a sorti un nouveau single. Et alors, il va très bien. On est au top de l'optimisme. Sa chanson s'appelle We Are Chaos, nous sommes le chaos en VF. Bon, donc c'est du Marilyn Manson pur jus. Ce single est le premier extrait d'un album éponyme, j'adore ce mot, qui sortira le 11 septembre prochain. Mais en attendant, voici donc We Are Chaos.
Ouais, on sent le gothique là quand même.
Totalement,
un peu,
totalement.
Ouais. Dans la Nièvre, une compagnie de théâtre nous invite à la sieste.
Le théâtre Éprouvette va en effet s'inviter dans les jardins nivernais pour organiser des moments de rêverie et de calme. Des siestes collectives pour une quinzaine de personnes qui seront organisées chez des particuliers. Alors comment ça marche? Les convives viendront avec leur couverture et leur coussin. Ils s'installeront tranquillement sur l'herbe. Et ces siestes, elles vont s'organiser autour de lectures de textes, des textes littéraires, poétiques ou philosophiques. Et tout cela sur fond de musique. Jazz ou électro, mais alors électro cool hein, quand même, bien sûr. Pour le théâtre Éprouvette, faire la sieste, c'est aussi un acte militant, comme nous l'explique la comédienne Claire de Sédouis.
On cherche à proposer une petite expérience de ralentissement par rapport à l'accélération, au sentiment d'urgence qu'on subit tous de manière assez permanente. On expérimente d'autres rapports au théâtre. On crée une ambiance. Et pour une fois, on pourra s'endormir au théâtre sans culpabiliser.
Alors, plusieurs types de siestes sont disponibles. Vous aurez le choix entre la sieste amoureuse, la sieste gourmande, la sieste en tube, la sieste pendant que l'homme plantait des arbres. Alors là, c'est mystérieux, je ne sais pas exactement ce qui nous attend. Ou encore la sieste au pays des merveilles avec Alice. Alors, si vous habitez dans le coin, que vous avez envie de prêter votre jardin ou de venir rêver collectivement, vous pouvez les contacter, le Théâtre Éprouvette, via leur page Facebook. Ou alors, ils m'ont permis de donner leur numéro de téléphone.
Vous êtes sûr ?
Sûr et certain, ils m'ont donné l'autorisation. 06 81 89 61 49. Et en tout cas, on vous souhaite un très joli moment si vous allez assister à ces siestes.
C'est donc dans la Nièvre.
Dans la Nièvre.
Si vous êtes dans le coin.
Très beau département.
Oui.
Ah bah oui, je viens de là.
Pardon, j'ignorais, il fallait me prévenir.
Et voilà.
Ah bah alors c'est le plus beau
des départements.
Ce week-end, une flopée de films français arrive sur Netflix, Damien.
Oui, Netflix va mettre en ligne le 1er août 4 films français qui ont tous été des succès au box-office et qui avaient été salués par la critique au moment de leur sortie. Et il y en aura pour tous les goûts. Alors, si vous êtes plutôt du genre bande de potes, fan de Pierre Niney, la plateforme vous propose de voir ou revoir le film Five. Si votre truc à vous, c'est plutôt la barbaque, le gore, le sanguinolent, le film d'horreur grave devrait largement vous combler. Et puis, si ce que vous kiffez par-dessus tout, c'est la musique, alors vous aurez le choix entre le biopic Gainsbourg vie héroïque, réalisé par Johann Sfar, ou alors un film, alors c'est pas un film musical, mais sa bande originale est tellement connue qu'on peut pas l'en dissocier. Si je vous fais écouter ça, Pascal, est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Bah oui, Amélie Hoff Montmartre avec tous les touristes qui viennent voir le café et qui payent le café 15 balles. Voilà.
Les deux moulins.
Qu'est-ce que ça me dit ?
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain sera donc mis à l'honneur ce week-end. L'occasion de retrouver Amélie, donc, mais aussi Nino Quincampoix, Georgette, Madeleine Wallace ou encore Lucien. Bref, toute la galerie de personnages savoureux inventés par Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, qui est d'ailleurs en train de travailler avec Netflix sur un nouveau projet de long-métrage, au casting Elsa Zilberstein, Manu Payet, Alban Lenoir et Isabelle Nanty. Et ce sera un film de science-fiction, il s'appellera Big Bug.
Et on termine avec votre groupe préféré, Damien, qui est...
Le duo Holidays avec deux L et deux Y. Alors je trouve que c'est un des groupes français les plus intéressants du moment, vraiment. Parce que, un, ils ont un talent indéniable. Deux, parce qu'ils créent des chansons totalement addictives. Ils ont sorti il y a quelques temps un premier album qui s'appelait Hollywood Bizarre. C'était un véritable bijou. Il y avait notamment cette chanson, L'odeur des joints. Je l'adore cette chanson.
Tu peux éteindre la lumière. Tu peux danser tant que tu veux. Finir en poussière. Je retiendrai tant que je peux. Tes mains dans l'atmosphère. L'odeur des joints. Tous les matins.
Et si je vous parle des Holidays aujourd'hui, c'est parce que le duo, Élise et Sébastien, va dévoiler ce soir à 19h un concert acoustique sur sa page Facebook et sur son compte Twitch. Ce sera à l'occasion de découvrir des titres inédits qui seront peut-être sur leur prochain album, qui sait. Et les Holidays reprendront également une chanson de Guy Béard.
Ah ouais.
parce qu'ils avaient fait partie de l'album Hommage, initié par Emmanuel Béard, qui est sorti il y a quelques semaines. Une très très belle version, je vous propose qu'on en écoute un extrait de cette reprise. Ça s'appelle « Fille d'aujourd'hui ».
Où vas-tu, fille? Fille d'aujourd'hui, t'en vas-tu? T'as quel vertige? T'éclairé de bruit. Où vas-tu, fille? Fille d'aujourd'hui, t'en vas-tu? T'as quel vertige? T'éclairé de bruit.
Guy Béard, reprise par Holidays. Ça s'appelle une belle cover.
Ouais, super.
Merci Damien Cabrespine.
Merci
à demain.
Beaucoup, à demain.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Et soudain, en plein mois d'août, en plein Paris, en pleine période masquée, deux hommes montent sur scène. Ils s'aiment. Ils s'aiment, mais c'est compliqué. Ils sont en couple et ils s'engueulent. Ça vous rappelle quelque chose ? Oui, mais Michel Larocque n'est pas là, Muriel Robin non plus. Assume, bordel ! Avec Pierre Palmade et Benjamin Gauthier, à partir de mercredi prochain, 20h au Théâtre du Marais à Paris, nouveau spectacle. Rebonjour Pierre Palmade.
Bonjour.
Hein, ouais.
Bonjour.
Ouais. On dirait que le couple, c'est un peu le thème de votre vie, non ?
C'est le thème de beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces, beaucoup de films, à mon avis. Et dans la vie, ça, le couple nous inspire. Forcément, mais j'ai trouvé ma Michel Larocque au masculin.
Ouais, comment ?
Benjamin Gauthier, ça va. Il y avait le Il s'aime avec Michel Larocque, et là, il y a le Il s'aime, enfin, Il s'aime, il se déteste, avec Benjamin Gauthier, la version homo de ces scènes de ménage mythiques qu'on avait fait avec Michel Larocque.
C'est vraiment ça. C'est...
Alors, attention, c'est pas un copier-coller du tout.
Non, non.
C'est vraiment deux hommes en couple qui s'engueulent. Essentiellement pour une raison précise, c'est qu'il y en a un qui assume complètement d'être homo, il le vit au grand jour, et l'autre qui l'assume pas, qui a un peu du mal avec ça, il a été hétéro dans une première vie, et il n'est pas à l'aise avec tout ce qui est mariage gay, avec tout ce qui est gay pride, avec tout ça, alors que l'autre l'est complètement, et il s'aime d'un amour fou, et malgré tout, il y a mon compagnon qui n'arrête pas de me dire en gros... Assume, bordel.
Ouais. Vous dites bordel, vous, dans la vie, c'est dépassé, bordel, non ?
Non. En fait, j'ai pensé à un film des années 80 qui disait « La tendresse, bordel ».
Ah oui, exact, ouais. Les moins de 20 ans ne s'en souviennent plus du tout. Vous l'avez écrite quand, cette pièce, Pierre Palmade ?
Pendant le confinement.
Ah, c'est pas vrai.
Pendant le confinement, j'avais commencé cette petite scène de ménage. Et puis... C'est vrai que j'ai vu des fois des propos sur la complexité que j'ai eue à vivre mon homosexualité qui avait heurté la communauté gay. Et je m'étais dit, il faut vraiment que je fasse un spectacle pour me faire comprendre.
C'est ça le but aussi, sous-tendu
ouais. Aussi. J'espère que vraiment la communauté gay comprendra que bah, moi, je l'ai vécu difficilement et qu'eux ont eu la chance de le vivre peut-être plus facilement. Et donc, c'est deux genres d'homosexualité qui se confrontent.
Ah oui, je
et
pensais
c'était
que...
aussi, non pas des excuses, mais c'est des explications. Voilà, parce que c'était difficile pour moi et ça l'est moins pour d'autres.
Ça vous a heurté, ce malentendu ?
Oui, énormément. Énormément, parce que c'est pas possible que je sois en conflit avec la communauté gay. Je suis gay, je suis homo, je suis... voilà, donc je peux au pire être maladroit, mais certainement pas dire des choses contre moi-même.
Je pensais que dans la pièce, c'était vous qui jouiez le rôle du gay qui assume et que c'était un rôle de composition, ça aurait pu être intéressant.
Pas du tout, je suis celui qui a été... Pas qui a même eu une femme avant.
Oui, c'est une autobiographie, quoi.
Voilà. Ah,
quand même.
Il y a un peu le palmate d'avant. Mais de toute façon, généralement, dans mes spectacles, c'est quand j'ai résolu un problème... En l'occurrence, là, je suis plutôt heureux avec et en paix avec mon homosexualité. Quand j'ai résolu un problème, j'en fais un spectacle du temps où c'était un problème.
Mmh. On va reparler de tout ça, on a un peu de temps devant nous, le temps de saluer Benjamin Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans cette pièce à deux, c'est vous qui assumez.
Eh oui, c'est moi qui assume, oui.
Ça donne quoi, Benjamin Gauthier, de jouer du Pierre Palmade ? Bon, vous avez une expérience théâtrale, hein, mais comment qualifier son écriture ?
Ah ben, il écrit déjà très très bien, hein. Il a quand même pas mal d'expérience, et je dirais que c'est une écriture assez précise, il est quand même très précis, il a beaucoup d'exigences, et en comédie, et puis dans le travail en général, c'est quand même plutôt une qualité, c'est quand même plutôt essentiel, c'est-à-dire qu'il est presque à la virgule près, et il a raison, parce que si on change parfois de place, la virgule, ben on n'est pas drôle. Mmh. Donc il y a beaucoup de précision. Ouais.
Et puis oh là, vous êtes où là? Vous êtes
ah.
où?
Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, je suis au 7e étage, pourquoi on entend du bruit?
Oh, légèrement, mais ça
va. Il y a un camion au 7e étage qui veut le doubler,
oui,
je crois.
J'ai beaucoup de camions au 7e étage qui passent dans mon appartement, donc oui, c'est assez c'est compliqué, oui.
Alors, Assume Bordel, ça commence dans 6 jours, j'imagine que c'est le moment où vous n'êtes pas prêt. Est-ce que vous nous feriez le début, là, tous les deux, les premières répliques, juste pour nous, pour Culture Média, pour Europe 1, qui commence?
Voilà! Qu'est-ce qu'elle nous demande?
Ah oui.
Non, d'accord, ok. Je dis, Benjamin, où sont mes clés?
Dans ta poche.
Quelle poche?
De ta veste.
Quelle veste?
Oh là là, quelle veste! T'en as 30? Alors, on secoue la première. On n'entend rien. Donc, c'est peut-être... Oh, la deuxième. Ah, bah dis donc, elle était bien cachée.
Arrête, je suis stressée, tu le sais.
Ça, c'est ton problème. Je retourne devant ma télé.
Tu regardes quoi ?
Jessica Jones.
Sans moi ?
Bah oui, tu vas bien voir tes parents sans moi.
Ah, d'accord. C'est une vengeance.
Peut-être. C'est pas impossible. Je sais pas.
C'est dégueulasse.
Oui. C'est dégueulasse.
Alors là, je vous interromps parce que sinon, on peut faire toute la pièce, remarquez.
Ah bah ouais, hein bah,
bon, ça va, on a la première scène.
Non, vous êtes bien là.
Ouais,
vous
c'est bon, on est bon, on peut y aller.
Mais c'est vrai que le personnage de Benjamin, il a envie de se marier, il a envie de faire un mariage gay. Moi, je n'ai pas envie parce que je ne me sens pas à l'aise dans le mariage gay. Benjamin, il veut adopter un enfant. Moi, je ne suis pas prêt. Moi, je ne l'ai pas dit à mes parents. Lui, il l'a dit. Toutes ces thématiques très liées au couple gay, qui fait qu'on s'éloigne un peu de ce que j'avais fait avec Michel Larocque, eh ben, sont traités dans une version comédie, dans ce spectacle.
Ah, merci de nous avoir fait le début. Hein. Merci Benjamin Gauthier d'avoir été en ligne. Je garde Pierre Palmade tout seul en studio.
Oui,
bonne journée à vous.
Vous avez de la chance.
Oui, je sais. Petite pause et on revient. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Pierre Palmade ne part pas en vacances. La preuve, il est au théâtre à partir de mercredi prochain et avant cela dans Culture Média. C'était vraiment bien le début là. Hein. Vous l'avez bien le texte.
C'est vrai, on a bien le début.
C'est le moment où il se passe quoi là dans votre tête?
C'est le moment où je pars chez mes parents et mon copain Benjamin me reproche de toujours pas avoir dit à mes parents que j'étais avec un garçon.
D'accord.
Donc c'est voilà, il en peut plus. Que je raconte à mes parents que je suis avec une fille à chaque fois.
Alors on a compris que voilà, ce rôle que vous vous êtes écrit, c'est du sur-mesure, hein, c'est complètement issu de votre vie, c'est du vécu.
Bah oui, c'était ce Pierre Palmade qui pendant très longtemps a cru qu'il était d'abord hétéro, après a compris qu'il était bi, après il a compris qu'il était homo, et tout ça il l'a fait au grand jour. Et ça a un peu contrarié la communauté gay, que je le sache pas tout de suite. Mais dernièrement, j'ai vu le gagnant de Top Chef.
Oui.
Vous voyez, c'était quelqu'un qui a épousé une femme. Et maintenant, il est très ami avec elle. Et maintenant, il est avec un compagnon. Et on salue son courage et on salue sa vie. Alors que moi, qui étais marié avec Véronique Sanson, et après, qui a été avec des hommes, on se fout de ma gueule, on ricane et on dit « c'était du chiquet ». J'arrive à savoir pourquoi lui, sa vie est courageuse, parce et la mienne, qui vécu la même.
Parce que ça avance peut-être et c'est pas la même.
Bah oui, mais je me dis, bah dis donc, lui, il a de la chance, il est pris au sérieux.
Je voulais vous en parler, bah je voulais vous raconter que j'étais à votre mariage, Pierre Palmade.
C'est vrai, Pascal?
Bah oui.
On était nombreux.
Enfin, je n'étais pas invité, hein, je couvrais pour Europe 1 à l'époque. C'était un 30 juin, si je me souviens bien, je ne sais plus quelle année.
Tout à fait, c'était fin juin, c'était 29 ou 30 juin.
Ouais, quelque chose comme ça.
30 juin, tout à fait.
Ouais.
95.
C'était sincère, j'imagine.
Bien sûr.
Non, parce que tout le monde a rigolé à l'époque, je ne vous cache pas.
Tu sais, c'était très blessant. C'était très blessant, mais c'était l'époque où je n'aimais pas être homo, je ne me reconnaissais pas dans le milieu gay. Et quand j'ai vu cette femme qui tombait amoureuse de moi, qui était Véronique Sanson, je me suis senti moins seul, heureux. Je voulais être aimé par elle et du coup, je suis tombé amoureux d'elle. Et voilà, tout homo que j'étais, eh ben, je préférais être avec elle qu'avec un garçon. Et quand c'est fait au grand jour, ben, les gens ricanent. J'allais dire les gens. Les ricaneurs ricanent, parce que si on est quelqu'un de gentil et de sain, on n'a pas à se moquer de toute façon de personnes qui se marient.
Le fait que vous écriviez là-dessus, puisque c'est le thème d'Assume Bordel, ça veut dire que vous avez réglé ce problème-là. On ne peut pas écrire si on n'a pas réglé. Ou alors l'écriture aide à...
Oui, c'est une écriture différente. Si on est en plein dans le problème, l'écriture est pleine de questionnements. Là, c'est résolu. Moi, je suis en paix, je vis en paix. Je ne sais pas si je suis fier d'être gay, mais en tout cas, je suis heureux d'être homo. Et je suis en paix avec ça. J'aimerais d'ailleurs de moins en moins le faire exister dans les interviews.
Mais là, c'est le thème de
oui,
la pièce.
Je sais bien.
C'est compliqué.
Non, mais
ouais.
C'est pas un reproche. C'est juste que faut pas qu'on... J'entends des fois dire « Oh là là, c'est son fonds de commerce ». Enfin bon, j'ai quand même vécu 10 ans avec Michel Larocque sur scène, c'était pas mon fonds de commerce, ma homosexualité.
En revanche, le couple, oui, ce rapport entre deux personnes, peu importe leur sexualité.
L'affectif.
Oui, l'affectif, ça c'est assez fascinant et c'est un peu une chimère pour vous. Vous le cherchez, le couple, en fait, vous aimeriez bien parce que... Et puis ça n'arrive pas.
Oui. Exactement, ça n'arrive pas. Qui vous l'a dit? Non, c'est vrai, ça n'arrive pas. Mais d'abord, il faut être en paix, justement, avec cette homosexualité. Après, il faut être... savoir qu'est-ce que c'est que le couple, savoir si on veut du fusionnel, savoir si... Oh là là, il faut savoir tellement de choses.
Ça vous paraît...
Et puis, on est caractériel avec l'âge. À 50 ans, on commence à avoir ses petits défauts, ses petits tocs, ses petites manies qui font qu'on est moins, moins supportable que quand on était jeune.
Oui, mais en même temps, ça peut arriver du jour au lendemain. C'est ça qui est bien.
Je me le souhaite. S'il m'entend, qu'il appelle le standard Europe 1.
D'accord, bah c'est un message pour celui qui veut. Dites donc, vous allez avoir une belle journée, vous. Hein.
Ah, écoutez, je pensais faire que de la promo, et puis finalement...
À tout de suite, Pierre Palmade. On va parler aussi de votre tournée, parce que vous avez décidé de bosser, c'est comme ça, de votre tournée qui commencera en octobre un peu partout en France. Nous sommes sur Europe 1 et ça va bien. Hein.
Ça va bien.
Ouais, ça va bien, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Et Pierre Palmade est dans le studio de Culture Média avec son petit masque bien posé sagement. Ce sera ça aussi, on est obligé d'en parler à partir de mercredi au Théâtre du Marais à Paris pour votre nouveau spectacle Assume Bordel. Voilà, en face de vous, vous aurez des gens masqués.
J'aurai des gens masqués, j'aurai des gens séparés. Chaque groupe de gens sera séparé d'une place de distance. C'est ça, distanciation sociale. Hein,
oui, oui, oui.
Donc, ça va être une salle disparate. Pas, même si elle le mérite, même si le spectacle le mérite, elle ne pourra pas être bondée, cette salle. Donc, on va jouer dans des conditions particulières. Mais on va jouer. Et
oui,
je voulais absolument jouer le plus vite possible. La scène, c'est ma vie. Ça me démangeait. Et j'ai la chance d'avoir trouvé un café-théâtre ouvert qui ouvre en août, parce que tout le monde...
Ça ne court pas les rues à Paris au mois d'août, et je pense un peu partout, c'est compliqué. Donc à partir de mercredi jusqu'à septembre, c'est ça ?
Jusqu'au 11 septembre. Alors c'est sûr que voilà, on ne pourra pas accueillir autant de gens qu'on voudrait. C'est sûr qu'on ne fait pas ça pour faire des bénéfices énormes. On fait vraiment ça pour jouer. Moi j'ai très envie de jouer avec Benjamin. J'avais envie de jouer ce thème-là. Et j'ai envie de jouer tout court. Et entendre rire les gens, ça me manque de ne pas entendre rire les gens.
Je précise que c'est à 20h. Votre agenda ne s'arrête pas là, pas du tout. À partir d'octobre, Pierre Palmade, une tournée est prévue. Vous partez en France jouer vos sketchs. Grosse tournée jusqu'à la fin de l'année. Vous êtes confiant là sur la probabilité. Vous irez quoi qu'il arrive. On ne sait pas ce qui peut se passer. On est dans une période d'incertitude, comme vous le savez.
Moi, je fais comme si ça allait aller de mieux en mieux, comme si on allait trouver un remède, comme si on allait accepter des salles pleines. Je sais pas, moi, je suis très positif parce que j'ai envie de jouer, tout simplement, parce que j'imagine pas ma vie sans la scène. Donc, ce one-man show où je vais jouer mes sketchs préférés.
Ah, ce sont vos sketchs préférés.
Oui. Donc vous êtes pas les plus connus forcément, mais en 30 ans, j'ai écrit 50 sketchs au moins, et j'en ai choisi 12 qui sont mes préférés.
Vos tubes, un petit peu. Non, vos préférés, pas
non,
vos tubes.
Non, c'est mes préférés, parce que vous savez, je joue pas à 50 ans comme je jouais à 20 ans.
Heureusement.
Ben oui, mais c'est tout bête. À 50 ans, j'ai l'âge d'être un père de famille qui joue au Scrabble, alors qu'à 20 ans, j'imitais un père de famille. Donc j'ai une épaisseur, on va dire, peut-être même une gravité à 50 ans que je n'avais pas à 20 ans. Alors j'étais peut-être un jeune freluqué.
Je vais prendre un exemple d'un de vos sketchs les plus connus. Vous allez me dire s'il sera dedans.
Tous les matins, il y a un type, il faut absolument trouver qui c'est. Qui, sur les coups de 6 heures, joue de la trompette ou du saxophone. Je ne sais pas ce que c'est comme instrument. Et ça réveille tout le monde. En plus, ils jouent pratiquement toujours la même chose. C'est irritant. Il faut faire quelque chose. Hein. Ah, c'est du clairon. C'est possible. Je ne suis pas très mélomane. Il le fait exprès. Voilà, il fout ce type.
Le colonel, évidemment, ça peut y être.
Ben non, parce que c'est un jeune Truffion à l'époque où le service militaire était obligatoire. Donc carrément, celui-là, j'ai plus l'âge de le jouer.
Ouais.
Mais dans les connus, il y a le Scrap, il y a le président, il y a le film porno, et puis d'autres que les gens vont découvrir. C'est un peu aussi.
Vous avez refait les arrangements ou c'est vraiment les mêmes?
Non, ce sont les mêmes. J'ai la chance d'avoir une écriture qui ne colle pas à l'actualité, donc qui vieillit bien. Et puis c'est une façon de dire, j'ai compris que les gens ne regardaient pas un peu dans le passé aujourd'hui, ils ont trop d'informations, et c'est aussi pour que des gens me découvrent. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que Palmade en one-man show, une jeune génération, ou des gens qui sont passés à côté de moi, et je l'accepte. Et donc j'ai pris les meilleurs, et j'ai dit, ben voilà, si vous voulez savoir qui est Palmade en humoriste, eh ben, c'est ce spectacle qu'il faut venir voir.
Mmh. Nous, on sait parce qu'on est vieux, donc quand même...
Et à la page
30 ans que vous faites ce métier, vous rendez compte? Vous réalisez?
C'est très agréable de dire qu'on a commencé à 20 ans. C'est un truc... C'est une médaille à vie d'avoir commencé jeune. J'avoue que c'est une très grande fierté. Même si j'étais balbutiant, j'étais pas... un comédien très très aguerri. Mais de commencer tôt, ça permet de faire plein de choses. Et à 50 ans, on se dit, j'ai 30 ans de carrière et j'en ai peut-être 30 encore qui m'attendent. J'ai bien fait de commencer jeune, je suis content.
Vous le regardez comment, le jeune homme qui a débarqué à Paris, à 20 ans donc Tendrement, j'espère.
Je regarde tendrement et j'aurais voulu lui donner plein de conseils. Il aurait fallu qu'il accepte plein de conseils parce qu'il croyait qu'il savait tout, que Paris l'attendait. D'ailleurs, Paris lui a fait croire parce que Paris l'a pris dans ses bras.
Ah, mais ça s'est bien passé.
Ça s'est très, très bien passé. Mais voilà, j'aurais voulu, après, peut-être prendre des cours de comédie. De coiffure aussi. Parce que j'avais une coiffure. Je voulais être un chanteur aussi. Donc j'avais une coiffure ringarde ou avant-gardiste, en tout cas qui n'était pas de mon époque. Mais voilà. Et puis qu'on me donne des conseils pour faire attention à Paris la nuit, qui m'a un peu piégé et qui a un peu saccagé ma vie privée. Mais bon, voilà, ça, j'ai pas trop envie de revenir là-dessus.
Mmh. Le succès, comme ça, assez vite, ce qui vous est arrivé, c'est plutôt une chance, quand même, ou ça peut être piégeux, comme vous venez de le sous-entendre ?
Alors, c'est une chance en termes de carrière, mais ça traumatise. Être connu dans tout son pays à 20 ans, ça tourne la tête. Moi, je connais pas... J'entends des jeunes artistes célèbres qui disent qu'ils ont la tête froide. Moi, je ne le crois pas. C'est très traumatisant, narcissisant, enivrant d'être connu. Voilà, quoi. Il y a des avantages. Les gens se comportent différemment avec vous. C'est pas normal. D'ailleurs, vous savez, j'étais tellement marqué par cette notoriété que je refusais d'aller à l'étranger quand j'étais jeune. Parce qu'on ne me reconnaissait pas. Et j'avais l'impression qu'on ne m'aimait plus.
Donc c'était vital, vraiment.
C'était devenu un traumatisme, un besoin de marcher dans la rue, d'aller dans les restaurants, d'aller partout et de me faire reconnaître. Alors attention, ça m'a passé maintenant, depuis. Mais c'est très traumatisant quand on vient de province, qu'on n'avait pas prévu ça, que ça vous tombe d'un coup sur la figure. Donc voilà. Maintenant, je fais la part des choses et j'estime que je fais un boulot un peu atypique, mais un boulot d'artisan et que dans la vie, j'ai plutôt envie de passer inaperçu. J'ai un peu de mal.
Pas complètement non plus, mais...
Pas complètement
non plus. Non, on va tomber dans l'extrême inverse. Restez là, Pierre Palmade, on va arriver aux indispensables d'Europe 1 et on vous demandera d'ailleurs de faire passer parce que vous avez certainement des choses à nous recommander, je suis sûre. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et nous sommes toujours avec Pierre Palmade.
Toujours.
Toujours, encore plus, qui dans, mine de rien, dans 6 jours, montera sur scène. C'est une période spéciale. Ouais. Est-ce que vous êtes accro aux jeux vidéo ou alors pas du tout ?
Non.
Bah moi
pas
non
du
plus.
Tout. Je suis passé à côté de cette addiction.
Mais il en fallait bien un.
Il en fallait un et même une. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour à tous, enchanté d'être là.
Indispensable culture média, vous êtes donc le spécialiste des jeux vidéo de la rédaction d'Europe 1 et je vous regarde avec beaucoup de respect, je vous envie car je n'y connais rien. Aujourd'hui, vous nous recommandez un jeu sur PlayStation 4.
Oui, la console de Sony, l'une des plus vendues au monde. Et en l'occurrence, c'est le jeu qui moi m'occupe depuis le début de l'été. J'ai déjà une bonne vingtaine d'heures au compteur. C'est Ghost of Tsushima. On va se mettre dans l'ambiance doucement. Nous sommes au XIIIe siècle sur l'île de Tsushima. C'est un avant-poste japonais près de la Corée. Une île un peu carte postale avec ses temples, ses forêts de bambous et ses falaises à pic. Vous marchez tranquillement, sabre au côté, dans une plaine entre deux forêts. Le soleil se couche derrière les montagnes. Le vent courbe les herbes hautes qui bordent le chemin. Tout est calme, un peu trop peut-être, car soudain...
Samurai ! Si,
Alors ça, ce sont les Mongols qui nous attaquent. Alors pourquoi nous ? Eh bien, car nous incarnons Jin Sakai, dernier survivant de la bataille de Tsushima. C'est une bataille qui a réellement existé. C'était en 1274. Elle a opposé les samouraïs de la petite île japonaise aux armées mongoles de Kubilai Khan, le petit-fils de Genghis Khan. Bien aidés par leurs canons, les Mongols l'ont facilement emporté. Première étape de leur plan de conquête du Japon, qui se soldera malgré tout par deux échecs en 7 ans.
Donc c'est un jeu basé sur des faits historiques.
Tout à fait. Le studio Sucker Punch, qui a développé le jeu, s'est attaché à reproduire le contexte de la vie du Japon féodal, tant au niveau militaire qu'en ce qui concerne la politique et la religion de l'époque. Et dans ce cadre, eh bien, ils ont inséré l'histoire fictive de Ghost of Tsushima, celle de Jin Sakai, donc petit seigneur de l'île. C'est sur la plage de Komoda, rougi par le sang des samouraïs, que son histoire commence. Il est sauvé de la mort par une voleuse et Jin se lance dans une mission un peu folle, il faut le dire, libérer son île désormais envahie par les Mongols. Alors pour y parvenir, il va falloir recruter des alliés, infiltrer des villes pour couper la tête des chefs ennemis et secourir les fermiers, otages du Khan, etc., etc.
C'est un esprit vengeur, revenu d'entre les morts pour anéantir les Mongols.
Si tu continues sur cette voie, tu ne vaudras pas mieux que les Mongols. Je t'ai appris à te battre avec honneur.
Tout honneur est mort sur la plage. Le Khan mérite de souffrir.
Ah, vous voyez, il y a de la tension, on est vraiment dans une histoire très cinématographique.
Ça me fait peur, hein. C'est normal.
Un petit peu, ah ouais. Ouais, c'est un peu effrayant par moments. Il faut savoir que quand même, Ghost of Tsushima, c'est un jeu en monde ouvert, c'est-à-dire que vous êtes libre d'aller où vous voulez, vous incarnez donc le samouraï, et on part à la découverte de l'île de Tsushima, riche en points d'intérêt, en missions à accomplir et en lieux à explorer. On peut par exemple écrire des haïkus face à la mer ou honorer des sanctuaires cachés dans les montagnes. Et ça vaut le coup de prendre son temps, car le jeu est très beau, très stylisé, les paysages faits de forêts au feuillage d'or, de plaines recouvertes de fleurs et de temples imposants sont absolument splendides. Le gris du ciel et le vert triste des arbres tranchent avec le bleu ou le rouge vif des fleurs, le tout magnifié bien par des lumières que l'on croirait naturelles tellement elles sont belles. Il m'est arrivé d'être aveuglé en chevauchant face au soleil couchant, même s'il y a, il faut le dire, de petites scories quand même, notamment l'animation de l'eau qui est très très moche et les expressions faciales qui sont un peu rigides des personnages.
Ah, ils ont raté l'animation
de
l'eau.
C'est dommage quand même. Ils font des beaux arbres mais une mer pas très belle.
Bah ouais, on se balade donc, mais j'imagine qu'on se bat aussi quand on joue un samouraï, c'est mieux.
Et effectivement, c'est le plus intéressant et c'est clairement le point fort de Ghost of Tsushima. Et ce qui prime, eh bien quand on se bat, c'est le Bushido, le code d'honneur des samouraïs.
Au combat, nous affrontons nos ennemis avec fierté. Et quand nous leur ôtons la vie, nous leur faisons face avec courage et avec respect. C'est ce qui fait de nous des samouraïs.
Allez, une des meilleures idées du jeu, c'est que l'on peut défier un ennemi en duel. On arrive devant lui, on le confronte. Il faut appuyer sur un bouton au bon moment pour dégainer son katana. Le timing est crucial. C'est vous ou lui. Si vous vous ratez, vous mourrez quasiment. Jin dispose aussi de 4 postures différentes pour le combat. Il y a la posture de l'eau, celle du vent, de la pierre et de la lune. Chaque posture convient à un adversaire en particulier. Ça demande certaines maîtrises et c'est assez jouissif hein, quand on arrive finalement à combiner tout ça. Couplé au graphisme stylisé, ce système de combat, eh ben, il donne au jeu une dimension très cinématographique, très épique. Les développeurs ne s'en cachent pas, ils ont puisé leur inspiration bah, là où ça se fait le mieux, dans les films d'Akira Kurosawa. Mmh. La comparaison est finalement assez juste. Ghost of Tsushima n'est pas un chef-d'œuvre du jeu vidéo, mais il se savoure comme un bon film à la fois distrayant et enrichissant.
J'aimerais savoir la différence entre tuer son ennemi avec respect et tuer son ennemi avec irrespect.
Ah, mais faut demander à Clément.
Eh bien, dans le jeu, par exemple.
Comment on tue quelqu'un avec respect voix, ou irrespect ?
Eh bien, la voie du samouraï, c'est effectivement de confronter son adversaire de face, de le défier et donc d'avoir un duel face à lui et le meilleur l'emporte. En revanche, par exemple, il y a des phases dans le jeu où il faut s'infiltrer dans des forts et aller tuer les gens un peu discrètement et ça, c'est très sournois.
Ah.
Et ça, les samouraïs ne font pas ça. Les samouraïs détestent ça. C'est
pigé.
C'est harakiri s'ils font ça quasiment.
Et puis en plus, on peut mourir plein de fois dans les jeux.
Exactement.
Ça, c'est pas mal.
Je confirme que je suis mort pas mal de fois.
Ah oui, bah écoutez, Clément Le Saffre, merci beaucoup. Ghost of Tsushima, Pierre Palmade, il faudrait peut-être qu'on aille voir dans des univers parallèles. Peut-être qu'il se passe des choses.
Non, créer un jeu comme ça, ça doit être fascinant. Après y jouer, je sais pas, moi je. Mais créer, inventer, être. Tirer les ficelles d'un jeu comme ça, ça doit être fascinant. Mmh. Comme écrire un film d'ailleurs.
Vous avez un indispensable pour nous ?
Un jeu ?
Non. Un coup de cœur que vous feriez tourner. Qu'est-ce que vous aimez en ce moment ?
En film ?
Non, en tout, en film, en disque, en.
Ah, c'est ça, ouais. Comme on que culturel. Oui, en ce moment. Oui, oui.
Voilà, je vous ai connu plus réactif.
Non, parce qu'on m'avait dit un coup de cœur culturel, c'était ça. Hein,
bah, je suis là, c'est culturel. Hein.
C'est ça.
Ouais.
Eh ben, je suis très impressionné par le retour de Sheila.
C'est ça.
Sheila, notre Sheila, me dit pas Sheila qui, il n'y a pas de nom derrière, hein. Enfin, c'est Annie Chancel, mais c'est Sheila qu'on a connue avec des couettes en 1960, qui est arrivée en 1975, elle nous a fait un retour disco en body, où elle était sublimissime avec ses chansons Spacer. Et là, à un âge canonique, on va dire, à un âge, elle fait un retour. Elle est en train d'enregistrer son prochain album un peu intimiste. Mais en attendant, elle a sorti des rééditions, des remasterisations de Spacer. Et je la vois dans toutes les émissions. Je la vois sur Instagram. Je la vois dans les émissions de télé. J'espère qu'elle viendra chez vous. Et je trouve qu'elle nous fait un retour incroyable, Sheila.
Vous possédez bien votre Sheila, on remarque. Hein. Hein, vous l'avez bien, Sheila.
Parce que, bah, oui, j'ai même la chance de correspondre un tout petit peu avec elle. Parce que ça m'épate, quelqu'un qui sait revenir. Elle a plus de 50 ans de carrière, presque 60 ans de carrière. Et ben, elle se réinvente. Et elle est là, souriante, chantante, et même avec de l'humour sur elle-même, sur sa carrière, sur le temps qui passe.
Merci Pierre Palmade d'être passé par Culture Média dans 6 jours, donc la première de votre nouveau spectacle au Théâtre du Marais à Paris, Assume Bordel. Vous avez le trac là ?
Avec Benjamin Gauthier.
Ouais, avec Benjamin Gauthier, oui.
J'ai le trac parce que je ne possède pas encore complètement le texte. Alors, j'apprends très vite et vous inquiétez pas, mercredi je le saurai. Mais ça me tarde que ça soit bien su ce texte.
Eh bien, bel été à vous, même studio. Et ce sera donc sur scène. Merci Pierre Palmade.
Merci beaucoup Pascal.
À suivre Première Page. Février 2004. Luc est debout devant sa toile, brosse à la main. Il prend du recul, s'avance, recule à nouveau. C'est un grand format, un lac immense dans une lumière froide. Une bande verticale à droite présente un motif plus abstrait, des cercles fluo à intervalles réguliers. Lucie et toi êtes assises à côté sur un canapé de récup. T'en as pas marre, Luc ? Ça fait 3 mois que tu bloques sur cette toile. J'arrive pas à la terminer. Il ne manque pas grand-chose, mais ça ne tient pas. Si seulement je savais ce que c'est. Et tu comptes y passer toute l'année ? Luc s'assied sur son tabouret pivotant, ne lâche pas sa toile des yeux. C'est sûrement la partie gauche, c'est encore déséquilibré. Je cherche, c'est rageant, si près du but. Ah déjà, bah oui, c'est une petite première page, c'est comme ça. Hein, on joue le jeu, Térémentine, Carole Fives, le 20 août prochain chez Gallimard.